Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, comment sortir d'une grève ? Elle dure, la grève à la SNCF. Nouvel épisode demain, selon les modalités établies depuis début avril, à raison de 2 jours consécutifs sur 5. La mobilisation doit courir jusqu'au 28 juin. Et après, personne ne sait. Ce qui est certain, c'est que la grève va bien finir par s'arrêter un jour, mais à quelles conditions, au prix de quelles concessions, de la part des syndicats comme de la part de la direction. C'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment. Tout dépendra de l'évolution du rapport de force pendant le conflit. À Air France, la direction pensait avoir trouvé la solution de sortie de crise en organisant une consultation interne pour soumettre à l'approbation des salariés une proposition d'accord sur des mesures salariales. On connaît la suite, proposition refusée, le PDG a démissionné. Alors on prête à Maurice Thorez cette phrase au moment du Front Populaire en 1936. Il faut savoir arrêter une grève, mais on oublie souvent la suite. Il faut savoir arrêter une grève dès que satisfaction a été obtenue. Alors est-ce vraiment la seule issue pour mettre fin à un conflit social ? Comment sortir d'une grève ? C'est la question que dont nous allons débattre ce soir en compagnie de 4 invités. Franck Mérouze, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'un magasin Carrefour Contact à Caen, délégué du personnel CGT pour la région Nord-Ouest et vous avez accompagné pendant de longs mois les salariés du groupe Jeannette, une biscuiterie qui avait été mise en liquidation judiciaire. Les salariés s'y sont opposés, ont occupé leur usine jusqu'à trouver un repreneur, ce qui a été fait. Le groupe existe toujours aujourd'hui. Vous en avez tiré un récit, Les Jeannette, récit d'une lutte ouvrière, publié au Cahier du Temps. C'était il y a quelques mois de cela. Pour discuter avec vous, Loïc Hissler, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien DRH adjoint de la SNCF, c'était jusqu'en 2017. Vous êtes aujourd'hui membre du comité de conseil People to People Group. Vous avez également été délégué général de l'UNIM, l'Union nationale des industries de manutention dans les ports français, ce qui vous a valu d'avoir quelques discussions avec les syndicats de Docker. Et vous avez publié au Cherche Midi, là aussi c'est une publication assez récente, oui, 2017, le triangle du manager pour changer l'entreprise autrement. Notre troisième invité, Flore Santisteban, bonsoir.
Bonsoir, Hervé Gardette.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po, vous êtes membre du CVPOF, consultante, spécialiste de la résolution des conflits et du dialogue social. Et puis notre quatrième invité, il est au téléphone dans le Périgord, c'est Bruno D'Alberto, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général, enfin vous avez été secrétaire général de la CFDT Cheminots de 92 à 98. Vous étiez un des porte-parole de la CFDT pendant la grève de 1995. Vous avez ensuite rejoint la CGT. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Alors je voudrais d'abord qu'on évoque peut-être les différents tons de la grève pour examiner la question qu'on pose ce soir. Comment en sortir ? Mais d'abord, il y a peut-être le fait d'y entrer. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'entrer dans une grève ? Est-ce que pour les uns et les autres, être en grève, c'est toujours, à la base, le signe d'un échec, Flore Santisteban ?
Oui, indéniablement, je pense que c'est la question que vous posez est la bonne. Comment sortir d'une grève ? Mais la réalité, c'est comment ne pas y entrer. Et ça, il y a une façon, je dirais pas simple, mais éprouvée, qui est de prévenir le conflit par le dialogue social.
C'est-à-dire que s'il y a grève, ça veut dire qu'il y a eu un problème de dialogue social à un moment donné ?
Oui, absolument.
Systématiquement ?
Systématiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, la plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est effectivement le cas, c'est-à-dire qu'on arrive à une impasse, un dialogue de sourds entre d'un côté les syndicats et la direction. Parce que il faut sortir un mythe tout de suite de l'esprit de nos auditeurs, on ne fait jamais grève par plaisir.
On ne fait jamais grève par plaisir. Bah tiens, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ça, Franck Mérouze.
Bah, tout à fait, on ne peut être que d'accord avec ça. D'abord parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à partir du moment où on est en grève, le salarié va perdre lui aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier point. Et puis la question qui est évoquée, effectivement, et là aussi ça va peut-être vous surprendre de la part d'un syndicaliste CGT, c'est qu'une grève, y compris pour notre organisation syndicale, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire que on n'a pas pu se mettre d'accord avec une direction sur un certain nombre de revendications et que la seule issue pour l'organisation syndicale et pour les salariés afin de se faire entendre, c'est effectivement d'appeler à cesser le travail, mais ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on engage un tel mouvement.
Ça veut dire que c'est l'outil qu'on utilise quand tous les autres ont été tentés et n'ont pas fonctionné ?
C'est la dernière solution, c'est le blocage de l'entreprise, c'est l'ultime rapport de force. Et effectivement, je pense qu'il est dommage dans notre pays qu'on n'ait pas suffisamment ressources à ce dialogue social dans de bonnes conditions qui permettraient, à mon avis, à de nombreuses reprises, d'éviter le conflit.
Loïc Hissler, sur la même question.
Il y a plusieurs formes de grève. Il y a, dans la plupart des cas, de grève locale ou de grève de site, l'expression d'une forte inquiétude par rapport à l'avenir ou une agrégation de mécontentement individuel. Hubert Landy a pris l'image du gaz qui s'accumule et notamment ces gaz viennent des irritants non traités. Il y a autant de raisons pour un salarié de faire grève qu'il y a de salariés. Le rôle du syndicat, c'est d'essayer de réunir tous ces mécontentements et de purger la situation par la grève. Donc la grève peut servir à purger la situation. Elle est vue comme une solution pour remédier à un certain nombre de problèmes individuels.
Est-ce qu'une direction, par exemple, d'entreprise peut aussi trouver une forme d'intérêt dans le déclenchement d'une grève, Loïc Hissler ?
Alors, moi, je dirais que les expériences que j'ai vécues, c'est parce qu'il y a des conflits qui relèvent simplement d'opposition entre des salariés et un employeur. Moi, j'ai vécu dans des mondes dans lesquels il y avait plusieurs partenaires, notamment le tripartisme avec des employeurs, des salariés et puis l'État, où la SNCF, c'est en l'occurrence l'État, le gouvernement qui est également en cause dans le conflit actuel. Donc il y a trois partenaires. Effectivement, pendant longtemps, et surtout dans les entreprises ou les situations, les organisations à monopole, on avait un jeu subtil qu'on a pu appeler le corporatisme, où les employeurs avaient parfois intérêt au combat des salariés parce qu'ils pouvaient obtenir de l'État une amélioration de la situation de l'entreprise. Il y avait une communauté dans laquelle les employeurs et les salariés se retrouvaient avec un intérêt commun. Ce qui fait défaut, et c'est la fin des monopoles, c'est l'idée que la concurrence arrivant, l'État ne peut plus aider le monopole existant qui est remis en question par l'ouverture à la concurrence. Et du coup, il faut que les salariés trouvent avec leur employeur les moyens de devenir compétitifs. C'est tout le problème de la SNCF, c'était le problème des ports français il y a 20 ans.
Bruno D'Alberto, vous qui avez connu aussi, comme Loïc Hissler, la SNCF, est-ce que vous avez connu cet intérêt commun qu'il pouvait y avoir dans le déclenchement d'une grève ?
Non, je pense pas que ce soit aussi machiavélique que ça. Une direction d'entreprise comme celle de la SNCF n'a pas forcément intérêt à ce que le conflit ou les divergences se règlent par un conflit, et notamment des conflits comme celui qu'on a connu en 95 ou celui qu'on connaît actuellement. Et d'ailleurs, parce qu'elle risque d'y perdre sa tête. On a vu à l'époque, en 95, Bergougnoux, président de la SNCF, jeté comme un malpropre par Juppé. Je suis pas sûr que Pépi s'en sortira forcément grandi après ce conflit qu'il ne peut pas, et ça c'est de fait parce que c'est pas lui qui est aux manœuvres, qu'il ne peut pas régler, mais pour lequel il alimente plus ou moins le feu en prétendant par exemple que un pourcentage important des cheminots soutiendrait le projet de réforme. Donc voilà, je crois pas que ce soit aussi machiavélique que ça. Les conflits, et moi je reviens sur cette première impression, les conflits sont en général issus soit de d'une négociation ou d'un dialogue social qui est rompu, soit de provocation et de rapport, j'allais dire, presque idéologique, et on a le cas et on le vit aujourd'hui à la SNCF avec le projet de réforme.
Bruno D'Alberto, Franck Penrose nous disait tout à l'heure, on ne fait jamais grève par plaisir. Pour autant, est-ce qu'on peut prendre du plaisir quand on fait grève? Quand on préparait l'émission, vous nous avez un petit peu raconté ce que ça avait été, 1995. Vous disiez à l'époque, voilà, il y avait une vraie solidarité, il y avait un enthousiasme aussi dans la grève.
Ah bien sûr, et les grévistes sont en général des gens actifs. Ils tiennent des piquets de grève, c'est des moments qui sont forts de solidarité, des moments où, de convivialité même dans la lutte. Ce sont des moments qui sont extrêmement importants. Et il est évident que plus on s'avance dans le temps, et lorsque le conflit n'est pas résolu, plus effectivement ces moments importants à la fois de convivialité, mais aussi d'objectifs à atteindre, s'ils sont pas résolus, effectivement, amènent des situations un peu dures sur un rapport de force. Je pense qu'on en viendra tout à l'heure sur cette question-là, mais d'un rapport de force qui se crée et qui se cristallise et qui devient de plus en plus compliqué à résoudre.
Sur cette question justement de la durée de la convivialité, Fleur Santisteban, est-ce que ça peut être un obstacle à une sortie de grève? C'est-à-dire, il peut aussi y avoir presque une forme de démulation. On est dans un temps tout à fait extraordinaire quand on est en grève et quand un conflit est long. Et Franck Mérouz aura l'occasion de nous en parler, puisque l'occupation de l'usine des Jeannettes, ça a été très long, ça a été plusieurs mois, mais ça peut être compliqué aussi de sortir de ce moment extraordinaire.
Oui, c'est le cas. Je pense en particulier aux grèves de la joie, ce qu'on a appelé les grèves de la joie 1936, où l'enthousiasme des grévistes, des mouvements de l'époque ont abouti à un débordement du conflit dans un premier temps, puis à une difficulté pour le gouvernement d'y mettre un terme, qui a abouti, comme on le sait, à la démission du gouvernement Blum à l'époque.
Franck Mérouz, c'est ce que vous avez vécu, vous, justement, en accompagnant les Jeannettes dans leur occupation d'usine. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été compliqué, après, de reprendre le travail?
Oui, non, mais la lutte est joyeuse. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut cultiver cette convivialité. Et c'est aussi ce qui permet aux salariés de continuer le combat dans de bonnes conditions. Après, effectivement, il ne faut pas non plus sous-estimer les périodes de doute, les périodes de souffrance. L'usine Jeannette a été occupée pendant 344 jours et effectivement les salariés qui ont vécu cette occupation l'ont payé très chèrement parce que très souvent effectivement les salariés étaient dans l'inquiétude par rapport à leur devenir et rester aussi longtemps dans une occupation sans avoir d'issue est quelque chose de très difficile à vivre.
Loïc Kessler, quel est le conflit, la plus longue grève à laquelle vous avez été confronté? Est-ce que vous avez constaté ce phénomène que plus ça dure, plus c'est compliqué justement de mettre un terme à un mouvement?
Oui, déjà je dirais que sur cette question de la convivialité, c'est aussi la raison pour laquelle les conducteurs sont les plus prompts à rentrer dans le conflit et les plus difficiles à en sortir. C'est que ce sont des gens qui vivent isolés dans les cabines et des études sociologiques ont montré que sortir de l'isolement, se retrouver avec les camarades, les collègues conducteurs, autour dans un moment festif où on vit une lutte commune et on se retrouve sur des éléments communs, on partage ce qu'on n'a pas l'occasion de faire, c'est difficile d'en sortir. Et comment en sortir? Moi j'ai dans des conflits assez longs, ceux des ports avec la réforme du statut d'emploi des dockers de la loi de 91 et puis des conflits récents que j'ai connus à la SNCF, j'ai vu que justement quand on entre des syndicats responsables, j'ai beaucoup longtemps travaillé avec la CGT, savent que on construit une grève, ça se construit pour y entrer, et ça se construit aussi pour en sortir. C'est-à-dire qu'on a construit la grève en ayant déjà défini les moyens d'en sortir. Le plus difficile, c'est effectivement d'en sortir, surtout quand on est dans ces moments de convivialité extrême et qu'on se dit, on en tiendra jusqu'au bout et ça sera la capitulation et on préférera mourir debout, hein, c'est la formule, que de vivre à genoux. Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression que dans ce conflit actuel, on n'a pas forcément eu le temps de construire la sortie de grève et qu'elle est difficile puisque c'est l'État qui est à la main sur une loi. Alors, moi j'ai vécu justement le cas dans les ports d'une transformation de statut. Il a fallu attendre que la loi soit votée, qu'elle soit ratifiée, qu'elle soit publiée pour que les syndicats, le syndicat, il y avait un syndicat unique hein, qui constatait il y a une nouvelle loi. Là, on peut maintenant travailler aux modalités d'application de cette nouvelle loi. C'est-à-dire, on combat la loi tant qu'elle n'est pas publiée. Avec l'idée même, peut-être qu'il n'y aura pas de décret d'application, mais ça dure pas longtemps. Et une fois qu'on est devant le fait de dire, on est légaliste, il y a une nouvelle loi, il y a des nouvelles conditions, voyons ensemble maintenant comment on peut mettre en œuvre les modalités d'application. Je crains qu'on soit obligé d'attendre la publication de la réforme, de la loi, pour rentrer dans la phase de mise en œuvre et de modalités et de négociation des conditions d'application.
Alors, il faut dire qu'il y a une vraie difficulté, un vrai paradoxe presque à essayer de mettre du dialogue social dans le cadre d'un conflit, dans le cadre d'une grève, puisque vous partagez tous finalement le point de vue de dire, en gros, si on arrive à ce qui serait cette extrémité qui est la grève, c'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue social. Or, il va bien falloir en remettre un peu pour essayer d'en sortir, comme on dit, sortir de la grève par le haut. Vous qui menez des missions de consultante également, Fleur Santisteban, comment est-ce qu'on arrive justement à remettre du dialogue social dans une grève qui est justement le signe qu'il n'y en avait pas, ou pas suffisamment?
Oui, il y a toute la partie en amont qui est la prévention du conflit, la formation.
Mais là, le conflit, il a démarré.
Il est là. L'appel à un tiers. Et généralement, la meilleure façon d'en sortir. Pourquoi? Parce que les tensions sont généralement très forte entre les représentants du personnel et les représentants de la direction. Et l'appel à un médiateur, un conciliateur, quelqu'un qui réunira les parties autour de la table et qui, de façon dépassionnée, essaiera de trouver le plus petit dénominateur commun, est une des méthodes les plus fréquemment utilisées.
Vous vous êtes retrouvé à mener des missions de médiation, justement ?
Non, pas directement sur des conflits sociaux ou sur des grèves, mais c'est un sujet que j'ai étudié et qui a cours, pas uniquement, je dirais, dans le cadre du dialogue social. Vous en avez aussi dans le cadre de, notamment d'élections, d'organisation d'élections, de primaires, c'est le cas aussi, où vous faites appel généralement à des personnalités extérieures qui n'ont pas de lien avec les participants pour essayer de retrouver du lien et de repartir sur des bases de négociations plus sereines.
Bruno D'Alberto ?
Absolument, mais nous on a connu ce point en 95 lorsque Matteoli, grand gaulliste, a été nommé par le gouvernement comme médiateur à la SNCF, dans le conflit de la SNCF, avec une confiance, je suppose, du côté du gouvernement, mais aussi une confiance du côté des organisations syndicales, et quelqu'un qui était donc un peu hors sol, si pas seulement d'expression, hors sol par rapport aux problèmes qui se posaient à l'époque. Et c'est le médiateur qui a en partie dénoué la situation.
Parce que oui, parce voilà. Que... Oui, je vous laisse poursuivre.
C'est lui qui a dénoué la situation en donnant un point de vue, semble-t-il équilibré, mais qui a satisfait à la fois des organisations syndicales et le gouvernement, qui en a tiré des conclusions en retirant ces projets à la fois sur la protection sociale des cheminots et sur le contrat de plan qui liait l'État et la SNCF.
Loïc Hissler, est-ce que malgré tout, il n'y a pas quand même l'illusion, peut-être, en tout cas au début d'une grève, que les différents, appelons-les belligérants, vont être en mesure de s'en sortir par eux-mêmes, que ce soit la direction, que ce soit les syndicats? Est-ce qu'il n'y a pas cette erreur, peut-être, de trop tarder en général à faire appel à une médiation?
Oui, tout dépend de la nature du conflit. Si on est dans un conflit à l'intérieur d'une entreprise où on a donc des organisations syndicales et puis un employeur, bon, effectivement, si l'employeur estime qu'il a atteint ses limites ou qu'on touche à ses prérogatives de organisation du travail, par exemple, et que ce sont des prérogatives non négociables, le médiateur peut essayer de débloquer la situation en faisant comprendre aux uns et aux autres qu'il y a peut-être un compromis possible et donc en sortir, oui, tout à fait, par ce moyen-là. Mais l'employeur va tarder à faire appel à un médiateur parce qu'il va penser qu'il est dessaisi de son autorité d'employeur, donc il le fera le plus tard possible et il sera peut-être obligé de le faire parce qu'il sera contraint par d'autres. Côté salarié, on peut aussi se dire, côté organisation syndicale, mais on va y arriver par nous-mêmes et puis qui est ce médiateur, d'où il vient, est-ce qu'il n'y a pas une suspicion qu'il soit du côté du patron, etc. Voilà, donc, mais il y a des possibles solutions. Dans les conflits, moi, dont celui actuel de SNCF, mais celui que j'ai connu dans la réforme du statut d'emploi des dockers, qui passait par une loi hein, aussi, il y a deux étages possibles. Il y a la loi, hein, et la loi, ça se négocie pas, même si on entend beaucoup, il faut négocier avec le gouvernement. La réponse du gouvernement, c'est de dire, la négociation d'une loi, c'est le Parlement, et c'est les amendements. Donc donnez-nous des amendements, et puis on verra au niveau du débat parlementaire ce qu'on pourra modifier dans la loi. Mais le grain à moudre au niveau de la loi, c'est le Parlement, c'est là qu'il est. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu ambiguïté sur la négociation avec le gouvernement sur une loi. Le deuxième étage, c'est après, dans l'entreprise, ou dans la branche, parce que là, pour le cas du conflit actuel, on voit bien que ce qui pose problème, c'est l'égalité de traitement dans la future concurrence entre une SNCF qui vient du monopole et qui a du coup, je dirais, une construction sociale qui la rend plus onéreuse en coût de fonctionnement que des entreprises qui arrivent, même si elles sont de nature publique, comme Transdev, mais qui n'ont pas l'héritage de ce construction sociale. Et du coup, comment l'entreprise SNCF peut lutter demain dans cette concurrence? Et donc, c'est cette question de mise à égalité de traitement. Et le grain à moudre, il est au niveau de la branche, en grande partie.
Voilà, le grain à moudre, hein, je rappelle, formule d'André Bergeron, ancien dirigeant de EFO, qui nous avait inspiré l'idée de titre pour cette émission. Alors, vous dites, Loïc Hissler, la loi, ça ne se négocie pas, mais la loi, le politique peut y renoncer. C'est ce qui s'est passé, Bruno D'Alberto, en 1995. Est-ce que, finalement, c'était ça l'objectif de la grève? Est-ce que, du coup, c'était une bonne sortie de grève pour le syndicaliste que vous étiez à l'époque et que vous êtes resté?
Absolument, absolument, parce que faut pas se tromper. Sur une entreprise comme la SNCF, c'est pas une direction de l'entreprise qui elle gère le quotidien. Mais ce qui est politique, c'est le gouvernement. le ministre des Transports, le Premier ministre et le Président de la République. Et c'est eux qui, en fait, agitaient derrière un théâtre de marionnettes une direction de l'entreprise qui était complètement hors compétence pour régler des problèmes à la fois tant sur l'avenir de l'entreprise que sur le statut des cheminots. Donc effectivement, la sortie s'est fait aussi par un règlement entre organisation syndicale et pouvoir politique, hein, et avec une satisfaction in fine des organisations syndicales, parce que le gouvernement a revu sa copie de façon importante.
Fleur Saint-Esteban, en préparant l'émission, vous nous avez dit la sortie de crise de 1995, ça n'était pas une bonne sortie de crise, en tout cas ça n'était pas une vraie sortie de crise, c'est un conflit qui n'a pas été correctement arrêté. La preuve, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les sujets qui étaient en débat en 1995 n'ont pas été réglés et qu'on les retrouve sur la table aujourd'hui. Je parle sous votre contrôle, mais sur la question du statut notamment, sont des questions qui étaient déjà en débat en 1995. Mais je voudrais simplement peut-être monter un tout petit peu en généralité sur les trois cas de figure qu'on retrouve généralement pour sortir de la crise. Le passage en force, il faut pas le sous-estimer, c'est ce qui s'est passé notamment pendant la réforme des retraites en 2010, où après 9 mois de mobilisation, le gouvernement est passé outre les mobilisations. Vous avez le second cas de figure, qui est effectivement le retrait du texte. Donc là, 95, mais on a d'autres exemples, hein, on a 94, 2006 avec le CPE. Et puis une voie médiane, qui est une voie qui, je dirais, est un exercice d'équilibriste, mais qui permet aux deux parties de ne pas perdre la face, et sinon de gagner, mais en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, de sortir par le haut. Donc là, concrètement, c'est peut-être la voie qui s'ouvre pour le gouvernement et qui lui permettrait, sans nécessairement apporter de modifications substantielles à son texte, de donner en tout cas le sentiment aux organisations syndicales qu'elles sont entendues et qu'il est dans un véritable processus de concertation.
Alors ça suppose pour les grévistes d'avoir un interlocuteur. Mais qu'est-ce qui se passe, Franck Mérouse, quand on n'a pas d'interlocuteur, en tout cas dans le cas des Jeannettes, où l'entreprise est mise en liquidation judiciaire, c'est-à-dire les salariés faisaient grève, occupaient l'usine, mais discutaient avec qui ?
Alors on discutait avec l'État, et notamment c'était l'époque où les commissariats au redressement productif étaient mis en place à l'initiative de Montebourg. Mais notre principal interlocuteur, c'était l'État, pour effectivement faire en sorte que ces commissariats nous trouvent des repreneurs afin de garantir la relance. Et là aussi, malheureusement, il a fallu user du rapport de force, parce que ces réunions qui, au départ, aurait dû être constructive, ne l'était pas forcément, puisque elle débouchait systématiquement par un commissariat au redressement productif qui nous disait « Mais quand est-ce que vous allez quitter l'usine ?» Notre rapport de force, c'était aussi cette occupation, et surtout cette occupation, puisque les salariés se sont accaparés l'outil industriel. Et puis notre rapport de force aussi, ça a été le soutien populaire que la population a accordé à cette lutte. Et à partir du moment où ce rapport de force a bien été ancré, on nous a laissé occuper cette usine dans une relative sérénité, parce que il y a quand même eu beaucoup de rebondissements dans cette occupation. Pour preuve, Montebourg qui disait, quand il nous a reçus, que effectivement il se félicitait à chaque fois que des salariés prenaient en main l'outil de production.
Oui, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait effectivement eu ce soutien populaire, même ce soutien médiatique? C'était un combat qui était plutôt valorisé, on va dire.
Absolument, mais je pense que les médias ne s'y sont pas trompés. C'était le combat du cœur. Et puis c'était aussi une population d'ouvrières, si vous me permettez l'expression, qui était en voie d'extinction. Et effectivement, ces femmes de 50, 52, 54 ans, 56 ans, ont su toucher le cœur des Français, et on a vécu des moments absolument fabuleux de solidarité, comme la première vente qu'on a pu faire sur le marché à Caen, où on n'avait pas encore commencé à déballer la marchandise, que les canets se précipitaient à l'arrière du camion pour eux aussi pouvoir déguster les madeleines.
Bruno D'Alberto, la popularité d'un mouvement, ça fait partie du rapport de force, et ça peut faire dépendre la sortie d'une grève, enfin en tout cas ça peut conditionner la sortie d'une grève et le résultat des sorties d'une grève.
Oui, absolument, oui, on l'a vu aussi en 95 avec ce mouvement qu'on a appelé Tous Ensemble, ou dites de grève de par procuration, donc avec une certaine adhésion de la population, ou la majeure partie de la population, aux objectifs de la grève. Donc, bien évidemment, une grève dans une entreprise comme la SNCF ne peut se gagner que par le soutien, ne peut se gagner, enfin, en tout cas, c'est un élément extrêmement important pour gagner ce conflit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement se essaye aussi de jouer sur cette carte-là, avec un enfumage sur la réalité du dialogue social dans l'entreprise et dans ce pays même, en parlant de concertation, de négociation, de consultation, d'information. Or, la réalité, c'est que les mots ont un sens, et négociation, il n'y a pas de négociation aujourd'hui avec les organisations syndicales sur ce qui concerne la SNCF, en partant du principe, effectivement, que c'est la loi et qu'il y a un pouvoir politique et que c'est lui qui décide. Mais pour des organisations syndicales où les conditions de vie, conditions d'emploi, les conditions salariales sont liées à leur statut et sont liées à l'avenir de l'entreprise, vous comprenez bien que c'est des choses qui ne sont pas entendables s'il n'y a pas de discussion possible.
Louis Kissler, sur cette question de la popularité d'une grève, quand on est du côté de la direction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que cet élément important du rapport de force ne vous soit pas trop défavorable ? Est-ce qu'il y a une technique pour rendre la grève impopulaire ?
Bah non, je pense que c'est malheureux. Enfin, c'est pas à la main d'une direction d'entreprise de peser.
Vous pouvez
sur
appeler les journaux pour non.
Après, on peut expliquer le contexte. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une lecture. Moi, je sais que j'ai eu à faire cette information du contexte auprès de journalistes dans un conflit en 91, en expliquant quel est le contexte dans lequel les ports français se battaient contre des ports étrangers, avec des systèmes sociaux qui étaient différents, avec la conteneurisation et le risque de voir les bateaux aller vers des ports de Rotterdam ou de Barcelone. Et ça, effectivement, quand on a une information qui doit être le plus honnête possible, parce que la manipulation, si on peut la faire, vous savez que la formule une fois, on peut pas la faire mille fois. Donc, les journalistes s'aperçoivent très vite qu'on les promène. Donc il faut être transparent, fiable, donner les informations du contexte. Je pense que c'est ce que fait la direction de la SNCF le plus possible. Il faut être fiable, transparent, donner les informations sur le contexte. Et là, je dirais, le contexte parle pour nous, parce que la SNCF ne pourra pas faire face à la concurrence si elle reste dans un modèle social qui coûte beaucoup plus que celui de ses concurrents.
En tout cas, est-ce que le traitement médiatique et la nature du traitement médiatique peut être un indicateur, Loïc Kissler, des conditions de la sortie de grève? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez avoir, en fonction de la façon dont on parle d'un conflit, est-ce que ça oblige presque une direction à négocier différemment? Plus le conflit est populaire, plus c'est compliqué, on va dire, du côté d'une direction d'entreprise.
Oui, parce que surtout s'il s'agit d'un service aux usagers, aux clients, la voix des clients elle est effectivement prépondérante. Si vous avez une majorité de clients usagers qui disent que finalement ils sont contents du système actuel, ça pose question sur le système idéal qu'on veut leur proposer. Or, c'est pas le cas, ça semble pas être le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est partagé parce qu'il y a une appétence c'était sans doute pas le cas en 95 sur la concurrence. Les gens ont appris que la concurrence ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Et aujourd'hui, le contexte, politique a changé et cette notion de concurrence n'est plus ressentie de la même façon dans l'opinion. Mais effectivement, la mesure de l'opinion, c'est un peu ce que veulent faire aussi les entreprises par le référendum, voire des syndicats aussi. C'est afficher un état de l'opinion, donc un autre rapport de force, celui de l'opinion cette fois, et dire regardez l'état de l'opinion. L'opinion n'en veut pas. Voilà, l'opinion interne ou l'opinion externe, c'est une autre façon de peser sur un rapport de force.
Alors j'allais juste venir sur l'opinion interne, parce qu'effectivement, il y a des sondages qui peuvent témoigner de ce que serait l'opinion externe. Et puis, il y a ces consultations qui sont menées. Alors, soit là, dans l'actualité récente, à l'initiative d'une direction, celle d'Air France, qui posait la question suivante. Pour permettre une issue positive au conflit en cours, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé le 16 avril 2018? Il y avait un certain nombre d'augmentations salariales qui étaient préconisées. Non à 55,44%. Puis, il y a une autre consultation qui est en cours. C'est en ce moment à la SNCF avec Vote Action. Là, je crois que ça doit se terminer lundi prochain. Là, ce sont plutôt les syndicats qui ont pris cette initiative pour savoir si les cheminots étaient favorables ou non à la réforme ferroviaire. Cet outil-là, la consultation interne, est-ce que c'est un outil qu'on a l'habitude de voir, d'observer, Flore Santi-Stéban, dans les résolutions de crise, dans les résolutions de grève?
Oui, alors c'est assez récent. C'est assez récent et c'est un véritable outil de légitimation, mais à double tranchant. Là, on le voit avec la direction d'Air France, qui est démissionnaire, du coup, prenant acte du résultat. C'est un outil de légitimation. Pour la SNCF, c'est le cas, je pense, de la part des organisations syndicales qui voient le mouvement faiblir, la mobilisation faiblir. Et qui du coup utilise cet instrument qui n'a pas de valeur légale, hein, en tout cas s'agissant de ce vote action, mais qui permet, alors je sais que là je vais peut-être faire hurler mes co-religionnaires, mais qui permet aussi d'occuper les grévistes, parce que quand on fait grève, on fait grève, donc on cesse l'activité, et donc il faut bien trouver des distractions annexes. Le vote action fait partie.
Est-ce que ça va faire hurler Franck Méron? Alberto,
oui, non, mais complètement. On est dans la marginalisation, effectivement, de cette initiative. Et c'est malvenu. Et pourquoi c'est malvenu? Parce que, effectivement, ces principales initiatives ont d'abord été initiées par les employeurs. Donc, c'est un peu fort de café aujourd'hui de nous reprocher, effectivement, ce que le MEDEF, avec ses services RH, ont tenté de mettre en place partout, dans toutes les entreprises.
Bon, sachant que les syndicats disaient par rapport à Air France, on n'en tiendra pas compte du résultat. Mais, si le Will Emperor, donc,
on est dans un non-sens. On a un gouvernement en place avec un président qui nous dit qu'effectivement, il a toute légitimité puisqu'il a été élu au scrutin universel pour pouvoir mener à bien ses réformes. Dont acte, mais dans les entreprises, effectivement, il y a des élections professionnelles. Et c'est pour ça qu'on invite aussi les salariés à pouvoir s'exprimer lors des élections professionnelles. Et le syndicat des cheminots et la CGT est tout à fait approprié pour parler de ces questions-là, puisque cette organisation-là est largement majoritaire à la SNCF.
Est-ce que, Bruno D'Alberto, vous seriez par exemple favorable, je poserai la même question à Loïc Hissler, à une forme d'institutionnalisation du référendum d'entreprise dans le cadre d'une grève, avec un résultat qui obligerait les parties prenantes à en tenir compte en fonction du résultat? Bruno D'Alberto.
Mais en fait, la réforme du Code du travail a instauré ce référendum, de fait. Pas sur la question de des problématiques sur l'avenir économique ou social de l'entreprise, posées dans des termes politiques, ça ne l'est pas. Mais le référendum est déjà institué. C'est effectivement, Franck le disait, un outil qui a servi à contourner et à dévaloriser la légitimité de l'action syndicale. Aujourd'hui, ce qui est important, je me prononce pas pour ou contre sur ce point, parce qu'effectivement, là, la fédération, les fédérations des cheminots ont pris cet outil-là pour contrecarrer le discours ambiant l'affaiblissement du mouvement, l'activité plutôt débordante que moribonde aujourd'hui des cheminots, puisqu'ils vont au contact de la population. Mais le référendum est un thermomètre, effectivement, qui peut donner une température à un moment donné. Et là, sur la question précise qui est posée aux cheminots, elle va le donner. Je mets ma tête sur le billon, sur le résultat, effectivement. Je pense qu'il sera très positif sur le fait que les cheminots, dans leur très grande majorité, repoussent ce projet. Après, on a vu quand même une direction où un gouvernement se trompait, c'est souvent le cas, sur le sentiment ou la réalité des salariés. Et pour Air France, c'est la fable de l'arroseur arrosé, hein, avec un résultat assez savoureux quand même.
Loïc Hissler, sur l'utilisation de cet outil dans le cadre d'une grève.
Déjà, alors sur la légitimité, sur la valeur juridique, on est d'accord qu'elle n'en a aucune et que ce qui a été introduit, c'est la validation par des syndicats minoritaires d'un accord minoritaire et uniquement. Sur la question du principe, moi j'y suis pas favorable parce que ça ferait nier le rôle des organisations syndicales et faire fi se dire que le dialogue social n'a aucune chance d'exister, alors que c'est au contraire, il faut tout faire pour que le dialogue social fonctionne.
Il y a des règles. C'est pour ça que ça a été mis en place à Air France, par exemple, c'était pour passer au-dessus des organisations syndicales.
Bah, oui, c'est ça, c'est de montrer que le corps social n'est pas d'accord avec ces organisations syndicales. Donc c'est un défaut de représentativité des organisations syndicales. Donc institutionnaliser le référendum, ça voudrait dire que on accepte qu'il n'y a plus de représentativité syndicale, ce qui est quand même pas fait, ce qui est quand même faux et ce qui est pas le sens du droit du travail où tout a été fait pour avec l'accord d'ailleurs des organisations syndicales pour augmenter la représentativité ou la place de la représentativité dans la signature des accords. Sur les référendums, alors je serais étonné qu'effectivement les cheminots répondent pas oui à la question « Voulez-vous repousser une réforme qui fait que demain la SNCF sera mise en concurrence, perdra des parts de marché et vous serez obligé d'aller travailler chez des concurrents dans des conditions qui seront différentes puisque vous n'aurez plus la même réglementation du travail en particulier ?» S'ils répondent oui...
C'est pas la formulation est tout à fait exacte
de
la question.
Ça revient à ça. Ouais. Donc,
c'est le fameux de manière éternelle débat sur la formulation des questions dans des référendums.
Voilà, s'ils répondent pas non, on veut pas de cette réforme, ça serait extraordinairement surprenant. Et cette réforme, elle ne concerne bien sûr, elle impacte les cheminots, mais elle n'est pas faite pour les cheminots, elle est faite pour l'entreprise et pour préserver l'entreprise et le sort des cheminots demain, dans un monde qui sera ouvert à la concurrence, une concurrence que les clients, les usagers souhaitent majoritairement. Donc il faudrait doubler ça d'un référendum sur ouvert aux clients, sur voulez-vous que le transport ferroviaire soit ouvert à la concurrence. Et là, on ne sait pas quelle sera la réponse, mais en tout cas, sans doute pas la même que celle du référendum interne.
Fleur Santisteban, pour qu'une sortie de grève soit une bonne sortie de grève, du point de vue en tout cas d'une direction d'entreprise, est-ce qu'il vaut mieux avoir face à soi des syndicats qui sont unis ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient divisés?
Est-ce qu'il vaut mieux, vous m'amenez sur le terrain de l'adage divisé pour mieux régner. Évidemment que c'est plus compliqué quand vous avez un front syndical uni. Mais une fois de plus, je veux pas qu'on tombe dans la caricature entre d'un côté les mauvais patrons et de l'autre les organisations syndicales angéliques. Quand on arrive à la grève, c'est qu'on arrive à un constat d'échec, que tout avant n'a pas fonctionné. Et que donc, je dirais, il faut avoir des deux côtés des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais je voudrais simplement revenir juste à la question précédente sur le référendum. On a un exemple assez récent de référendum qui a porté ses fruits, en tout cas, disons, référendum, on va plutôt employer le terme de sondage, c'est le blocage de Sciences Po. Sciences Po a été bloqué il y a quinzaine de jours maintenant, et le directeur de Sciences Po a fait le choix d'en appeler à la consultation des étudiants qui se sont ultra majoritairement prononcé contre le blocage, et ce qui aboutit en réalité à une démobilisation et à une délégitimation de l'occupation, et donc à une réouverture des locaux.
Franck Merouz, on est presque au terme de l'émission. On vous a invité en particulier pour votre expérience auprès des salariés des Jeannettes. Comment ça s'est passé ensuite lorsque un repreneur a été trouvé et qu'il a fallu reprendre le travail et donc sortir de cette occupation, cette très longue occupation de l'usine?
Ça n'a pas été forcément simple parce que effectivement, quand on a dû quitter l'usine, ça a été un moment très douloureux parce que justement, on s'était attaché au moment qu'on avait pu vivre et à l'outil industriel. Après, on a mis tous les moyens pour faire en sorte qu'un maximum de salariés puissent récupérer leur emploi, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, puisque effectivement, on était 21 salariés dans l'occupation de l'usine, et l'entrepreneur a décidé de reprendre, dans un premier temps, 11 salariés. Mais ce qu'il y a d'extrêmement positif dans ce combat, c'est que aujourd'hui, au moment où je vous parle, la quasi-intégralité des salariés, y compris ceux qui n'ont pas été repris par Georges Viana, ont aujourd'hui retrouvé un emploi, même en étant dans une lutte qui a été organisée par l'organisation syndicale CGT.
Et vous me disiez avant d'entrer en studio qu'il y a une proximité géographique avec des salariés qui ont mené un autre combat, celui des Fralib.
Des Fralib, très...
Alors, Fralib, il faut rappeler ce que c'est.
1336, le T que vous pouvez trouver. 1336, pourquoi? Parce que c'est le nombre de jours que ces salariés ont occupé leur usine. Ils ont choisi un autre schéma économique puisqu'ils ont créé une SCOP. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des dirigeants des Fralib, et j'ai dit, écoute, si tu veux, on peut essayer d'organiser quelque chose avec la biscuiterie Jeannette. La rencontre a eu lieu, et effectivement, aujourd'hui, quand on va à Desmouville dans le magasin d'usine des Jeannettes, on peut manger une fabuleuse madeleine avec un thé qui est aussi tout à fait délicieux. Et on retrouve deux luttes phares menées par l'organisation CGT sous un même toit. Et je trouve que symboliquement, c'est extrêmement parlant.
Voilà, ils sont plutôt des sorties de conflits heureuses en l'occurrence. C'est malheureusement pas toujours le cas lorsque des usines ferment définitivement. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Flore Santisteban, Loïc Hissler, Bruno D'Alberto et Franck Mérouz. Les ouvrages des uns et des autres, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richer, Isolde Sicard, Antoine Dulster, Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Florent Bujon.